France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Miguel da Silva, je suis né le 7 janvier 1961 à Reims et je suis altiste.
On arrive à Paris, vous avez 18 ans,
oui.
Vous vous rendez compte finalement que vous êtes capable de vivre
sans
seul
ma mère, oui.
Et sans votre mère.
Sans ma mère, surtout seul, mais sans ma mère, oui.
Vous arrivez là au conservatoire de Paris, dans la classe de Serge Collot.
Serge Collot, absolument.
Comment il était ce Serge Collot, après Madame Propage?
L'opposé, c'est-à-dire un monsieur très distant, ne faisant pas tellement de compliments, alors que moi, on me complimentait dès que je m'accordais. Et la relation avec Serge Collot a été très intense, très courte, de 2 ans, parce qu'à l'époque, on pouvait faire son cursus en 2 ans. C'était 3 ans, mais je suis rentré assez à l'aise au conservatoire. Et Serge Collot, voyant que je n'étais pas un élève très... J'étais un élève difficile.
Pourquoi? En quel...
J'étais en colère. J'étais un peu.
Vous avez fait cette rébellion que j'évoquais alors.
Oui, un peu. J'étais un peu en colère. Je me sentais pas bien à ma place, je pense. J'aimais pas tellement. J'avais du mal à me faire des copains. J'avais des très bons copains, quelques-uns, mais j'étais pas. J'avais du mal à m'intégrer.
Il y avait des transfuges de Reims qui étaient arrivés en même temps que vous?
Il y en avait un, oui, pianiste, un ami d'enfance que je voyais beaucoup. Et Serge Collot a eu une maladresse pédagogique, je dirais. J'étais rentré avec une Allemande de Bach et un concerto, et il avait aimé cette Allemande de Bach. Et à l'époque, c'était une tradition, il y avait une journée par semaine, une classe commune. Et là, la première classe commune, on présentait les nouveaux arrivants, et c'était une année assez riche. Il y avait mon ami qui vient de décéder d'ailleurs, auquel je rends hommage, là, Laurent Vernet, qui est rentré la même année que moi. Cet accident m'a bouleversé. Un deuxième collègue qui est aussi décédé, Christophe Desjardins, Christophe Goguet, qui est alto solo à Radio France, Nicolas Beaune, qui est alto solo national. Enfin, vous voyez, c'était des années, je pense, assez fortes, enfin, avec un très bon niveau. Et donc, Serge Collot nous présente comme ça et dit, ça commence comme ça, ma première relation à cette classe commune. J'ai eu la chance, hier, d'entendre une très belle Allemande de Bach par Monsieur da Silva. D'ailleurs, il va vous la jouer. Et là, je dis, non. Mais non, je suis pas préparé. Ah si, si, vous allez vous la jouer. Et puis, vous exécutez, quoi. Et là, je joue très mal. Et je crois que je mets plusieurs années à m'en remettre. Et il ne comprenait pas que je pouvais avoir peur. Il ne comprenait pas que j'avais le trac. Il disait que j'étais à l'aise, que j'avais... voilà. Et il n'y avait jamais de compliments. Si ce n'est que le dernier cours... Alors, j'ai mon prix, brillamment, avec les félicitations au CDSM, rue de Madrid, à l'époque. Et là, dernier cours, après mon prix, on est dos à dos, on range nos instruments, et il me dit, Monsieur da Silva, je voudrais vous dire que je prends ma retraite à l'opéra à la fin de l'année. J'aimerais bien que vous me remplaciez. Et là, toujours un peu, oui, un peu rebelle, je lui dis, bah, écoutez, monsieur, je vous remercie, ça me touche énormément, mais ça ne m'intéresse pas du tout de faire de l'orchestre. Alors, décidément, vous t'arrêtez, voilà, décidément, avec vous, puis là, la déception, tout ça. Et puis, bien sûr, ce côté comme ça, un peu sanguin du personnage, en l'occurrence. Et puis après, je me reprends et je me dis, encore une fois, c'est une mauvaise réaction, ça, il faut y aller. Donc, je me suis présenté à l'opéra pour lui, tout en sachant que c'est pas une chose qui me conviendrait. Et en effet, j'ai vite démissionné. Thank you.
vous avez suivi à la lettre cet enseignement. Est-ce qu'il y avait pendant ces deux années, Miguel da Silva, au conservatoire, d'autres professeurs? Parce qu'on n'est pas uniquement élève d'alto, il y a aussi des classes de musique de chambre. Est-ce que c'est là que vous rencontrez Jean-Claude Pentier, Jean Hubeau, Bruno Pasquier?
Alors Bruno est l'assistant de Serge Collot. Bruno donne ses cours le vendredi, je me souviens, et Bruno, alors c'est l'affectif,
c'est un baume monsieur. Après le cours de Collot.
C'est un baume incroyable, c'est un peu ma Madame Propage, ma Madeleine du vendredi, quoi. Toujours soutenant, toujours porteur, toujours il trouvait que je jouais très bien. Lui aussi, il a voulu que je le remplace professeur au CNSM quand il est parti. Jean Hubeau, une classe, une élégance à la française. Je me souviens des...
Pianiste, lui.
Pianiste, les deux quintettes de Fauré qu'on travaillait en musique de chambre. Tous ces gens-là, très impressionnants. Bruno Pasquier m'a beaucoup impressionné parce que à l'époque, j'avais besoin d'entendre, réaliser ce qu'on me demandait. Bruno Pasquier, c'est un des plus beaux sons d'alto que je connaisse. C'est un altiste remarquable, un très grand musicien. Serge Collot, au concert, j'allais au concert. C'était un professeur, c'était un maître, mais c'était pas quelqu'un qui me transportait. C'était pas un grand interprète pour moi, j'ose le dire. Et ça, j'avais besoin, moi, d'un modèle. J'avais besoin de... Je veux être ça, quoi. Et là, dans Collot, je ne voulais pas être ça. Je savais qu'il y avait des choses mécaniques qui marcheraient et qui marchaient, mais c'est pour ça que le conservatoire de Paris, j'ai pas un souvenir... C'est pas la meilleure période de ma vie musicale. Jean-Claude Pentier, alors, a été remarquable parce que on a été lui jouer. J'ai fait du quatuor à cordes avec Jean-Claude Pentier, qui nous a tout de suite dit, écoutez, moi,
dans le cadre du conservatoire.
Dans le cadre du conservatoire, et il nous a tout de suite dit, moi, je peux vous donner des pistes d'interprétation, je peux vous faire part de mes réflexions par rapport à un tempo, tout ça. Mais je crois que le quatuor demande une technique, une technicité à l'intérieur que je ne connais pas, étant pianiste, vous devriez aller voir ailleurs, et surtout, vous devriez peut-être aller voir d'une tradition qui n'est plus en France. De toute façon, Jean-Claude est un homme qui ouvre des portes, en tout cas, dans ma relation que j'ai eue avec lui, amicale, affective, c'est quelqu'un toujours qui m'a ouvert beaucoup de portes. Il a ouvert cette porte en disant, mais oui, il faudrait peut-être aller chercher là où il y a une grande tradition, en Allemagne, en Europe centrale, et pourquoi pas la faire revenir cette tradition après en France. Donc j'avais besoin à l'époque de rencontrer une personnalité que j'ai rencontrée après avec les Amadeus, avec Peter Schildhoff, qui pour moi était un modèle de qualité sonore, d'élégance, de culture. Il me demandait des choses qu'il réalisait, et ça, chapeau, quoi. Ça m'impressionnait beaucoup, et j'avais besoin d'être impressionné.
Oui, besoin de rêver aussi.
J'avais besoin de rêver, exactement. J'avais besoin d'entendre un son, j'avais besoin de m'identifier, de dire je veux jouer comme ça.
France Musique, les grands entretiens de Miguel da Silva.
C'était quoi votre répertoire de chœur? C'était quoi ce qui vous faisait le plus chavirer?
Alors, les premiers disques qui m'ont chaviré, c'est le Quatuor de Ravel, par le Quatuor Parrainin, Ça, je me souviens que dans l'enregistrement de leur altiste avec Dennis Martin, je crois me souvenir, qui était altiste, qui avait un accident de voiture, enfin, je me souviens très bien. Et ça, ce quatuor de Ravel, j'y ai passé, mais en boucle. Les Amadeus dans Schubert et dans Brahms, dans les sections de Brahms, par exemple. Je me disais, mais comment on peut avoir cette largeur de son? Et puis après, des tas de choses, des tas de violonistes, son de Primrose, très jeune, dans cet enregistrement des deux leaders de Brahms, opus 91, avec Marianne Anderson, c'est bouleversant, quoi. C'est presque plus vocal qu'elle. Il commence sa phrase d'alto et c'est presque plus vocal que Marianne Anderson. Enfin, c'est... Et donc, je pourrais disserter sur plein d'interprètes. La chose que je retiendrai, c'est, encore une fois, le pouvoir évocateur d'une voix, d'un son, lié à un intérieur. Je pense que Minouin, le son de Minouin, c'est pas par hasard qu'il a ce son-là, ce monsieur, ce grand monsieur. C'est un son de philosophe, c'est un son de grand penseur, c'est un son d'humaniste. Le son de Heifetz, c'est un regard comme ça au laser, c'est une exigence, c'est une pertinence du propos. C'est ce son précis comme ça qui est laser, c'est pas par hasard. Enfin, donc ça me plaît autant. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque je suis sorti du conservatoire et lorsque j'ai continué à travailler avec le quatuor Amadeus et notamment avec Peter Schidloff, je me suis dit que si je crée un quatuor, ce serait par choix. C'est-à-dire que pour moi, être quartettiste, ce n'est pas ne pas vouloir faire d'orchestre ou ce n'est pas ne pas vouloir faire de carrière. C'est pour moi pouvoir tout faire, mais choisir d'être quartettiste. Donc j'ai fait un peu d'orchestre à l'opéra. Je suis très très heureux d'avoir fait ça dans ma vie, comme expérience. Mais le quartettiste doit être le choix ultime. Tout ça pour dire que j'aurais peut-être pu, en sortant du conservatoire, jouer debout, comme on dit, et jouer des récitals et faire des choses bon, très bien. J'en ai fait, mais je voulais que me consacrer au quatuor à cordes.
Quand vous sortez du conservatoire, on est en quelle année, Miguel da Silva ?
Je dirais qu'on est en 80, 81, dans ces eaux-là.
À ce moment-là, c'est là que vous entrez à l'Opéra de Paris ?
Je crois que j'ai mon prix en 82 au conservatoire et je rentre officiellement à l'Opéra de Paris en 84 et j'en démissionne en 87.
Avant d'entrer dans la vie du quatuor Isaïe, dont la naissance est concomitante.
84.
Hein, 84.
Oui.
Ces trois années que vous passez à l'Orchestre de l'Opéra de Paris, Miguel da Silva, est-ce qu'il y a des souvenirs qui restent saillants de production, du travail, là, pour le coup, de la fosse aussi.
Alors oui, quelques souvenirs. Pavarotti, l'élixir d'amour, magnifique. Je me souviens d'une Traviata, dirigée par Zubin Mehta. Je me souviens de belles soirées. Je me souviens de Didon Aîné. Ma première série, c'était Didon Aîné avec Jesse Norman à l'Opéra Comique. Alors oui, j'ai eu l'impression de rentrer dans le Saint des Saints, dans le...
Vos parents étaient fiers?
Oui, dépassés. Ma mère ne savait pas là où je mettais les pieds. Mon père non plus. Je vous dis, mais c'est pas méchant, c'est pas contre eux. Mais la chose qui a fait qu'il a compris que c'était grand, c'était ma première feuille de paye. Donc ça, oui, ça correspondait à un trimestre de sa retraite. Donc c'était important pour lui. Parce que ces gens-là voyaient la vie comme ça, c'est une forme de réussite. Je ne peux pas lui exprimer ce que je ressens quand j'entends Pavarotti. Je ne peux pas lui dire comment il relit les notes. Il ne peut pas le comprendre. Mais ça ne me fait pas de peine de ne pas pouvoir lui faire comprendre. C'est comme ça, il est dans un autre monde. Donc oui, quand je commence l'Opéra de Paris, ben, je suis pratiquement à prendre un bêta bloquant à la première lecture en me disant « je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je suis légitime pour être là ?» Puis j'y vais, parce que voilà, on respire avec le diaphragme, on se reprend. Et puis là, on découvre un monde difficile. Alors moi, je n'ai pas vécu l'Opéra de Paris tel qu'il est aujourd'hui. J'ai vécu l'Opéra de Paris un petit peu dans sa décadence. C'était un magnifique orchestre de lecture, on montait les choses très vite, mais après, on avait beaucoup de mal à améliorer les choses. L'orchestre était difficile avec certains chefs. Moi, ça me mettait excessivement mal à l'aise. Par exemple, je me souviens d'une Idoménée et la Clémence de Titus, les deux opéras de Mozart, avec Christopher Hookwood. Christopher Hookwood n'était pas un grand chef à l'époque, mais c'était stylistiquement remarquable ce qu'il demandait. Mais les trois quarts de l'orchestre n'écoutaient pas, parce qu'on joue pas Mozart comme ça, c'est quoi ça? Il nous demandait de jouer léger, aérien, de ne pas appuyer avec nos archers. Et personne ne le faisait. Ça me rendait fou. Je sais pas, il y avait une... C'était un petit peu un combat entre l'orchestre et les chefs, en permanence. Et le métier de musicien, moi je m'attendais à voir un mais c'était idéaliste, hein, mais un orchestre d'artistes. Et moi, au bout de quelques semaines, on m'a demandé si je voulais me syndiquer, tout ça. Mais pourquoi? Enfin non, je ne sais pas de quoi vous parler. Je n'ai pas envie. Quand ça se termine à 13h, on se lève, la musique est encore là. Mais enfin, des choses que l'on sait des orchestres, mais qui sont incroyablement choquantes quand vous arrivez et que vous êtes jeune. Et moi, j'avais beaucoup de mal. Donc j'ai vécu une période de l'Opéra de Paris qui a après énormément changé. Et moi, je suis hyper fier d'être allé écouter les opéras de Wagner il y a 3 ans. C'était magnifique. Enfin, c'est un orchestre extraordinaire. C'est peut-être l'orchestre que je préfère aujourd'hui. Mais à mon époque, moi, j'ai pas vécu ça d'une manière très épanouie. C'était pas mes meilleures années musicales.
C'est une année, un millésime, très important pour vous, Miguel da Silva, la fondation du oui. Quatuor Isaïe.
Oui.
Ce sont des camarades de conservatoire, au départ. Chacun, à ce moment-là, a aussi d'autres occupations, d'autres engagements. Mm-hmm. Vous n'êtes pas encore 100% Quatuor à cordes, ça viendra quand vous allez quitter l'Opéra de Paris. Mais quels sont, à ce moment-là, vos repères? Le quatuor à cordes en France, à l'étranger, vous le fondez parce que vous avez envie de dire quelque chose, vous avez envie aussi de renouveler, qu'est-ce qui se passe?
Alors, me concernant, j'ai envie de le fonder pour m'inscrire dans une tradition. Et cette tradition, pour moi, sans aucune agressivité, mais n'est absolument pas française. Elle est totalement tournée dans un triangle que je définirais entre Budapest, Prague et Vienne. Et vraiment, le quatuor emblématique qui me fascine et dont j'aime l'esthétique, ce sont les Amadeus. Mais avec, bien sûr, les quatuors autres qui me fascinent aussi dans certains répertoires. Le quatuor Lassalle de Walter Levin me fascine dans ses interprétations du dernier quatuor de Beethoven et la deuxième école de Vienne. Juilliard, enfin, mais les quatuors français à l'époque, quand même, la fin de Parrainin, la fin du quatuor Berned, c'est pas pour rien que Marc Bleuze, directeur de la musique, va vouloir créer un renouveau du quatuor à cordes en France et va créer toutes ces aides qui arriveront au moment où je démissionne de l'Opéra de Paris. Tout ça pour dire que ma première volonté, c'est de m'inscrire dans une tradition et de me confronter à ce répertoire. Et puis là, intervient le bouche à oreille. On commence à parler, vous essayez avec un tel, vous faites de la musique, tout ça. Et puis là, on me dit qu'un violoniste exigeant, très musicien, très artiste, et très volontaire sur le nombre de répétitions lorsqu'il fait de la musique de chambre. On me parle de Christophe Giannetti. Et donc, je contacte Christophe, on se voit, et Christophe me dit tout de suite, moi, faire du quatuor à cordes, d'accord, mais alors, on travaille, quoi. On ne fait que ça. On bosse, on fait que ça. Et c'est la première fois qu'un violoniste me parle comme ça. Et puis, on travaille des duos de Mozart. Et là, il
donc,
me fait...
Donc, violon-alto,
les deux. Les deux grands duos de Mozart, sol majeur et si bémol. Et donc là, il me fait travailler, mais il me fait rechercher des choses que j'ai jamais expérimentées. Enfin, un degré de jouer ensemble, de rapport au temps. Là, on respire pas ensemble, Miguel, là, on n'est pas très juste. Là. Et on travaille comme ça, on travaille à deux. Et je suis conquis par l'exigence de ce garçon qui correspond à une attente que j'ai. Et donc là, on se met à continuer le bouche à oreille. Et à l'époque, je fréquente la classe de Pierre Amoyal. Et il y a un violoniste que j'adore. Maintenant, on se parle un petit peu moins, mais on est toujours très amis. Romano Tomasini, un luxembourgeois d'origine italienne, qui adore le quatuor à cordes, qui a la voix qui chante comme ça. Enfin, un gars super, très doué, qui a envie de faire du quatuor et puis qui très, comment on demande, voilà. Donc on se dit, ben on va essayer avec lui. Et puis, un violoncelliste très talentueux, Carlos Durté. Et on commence à faire du quatuor, comme ça.
Quatuor Isaïe dans Mozart pour clore le troisième épisode des Grands Entretiens avec l'altiste Miguel da Silva. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Yann Fressy, mixage Olivier Dupré, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.